C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Il existe peu d'actes politiques aussi forts que celui d'abolir la peine de mort. Si le XXe siècle a vu une grande partie des pays y mettre fin, la peine de mort demeure appliquée dans 55 États et territoires dans le monde aujourd'hui. En France, la peine de mort était appliquée à l'aide d'une guillotine, instrument très particulier et spectaculaire, inventé par Joseph Guillotin au XVIIIe siècle. C'est un instrument qui possède une histoire propre, une histoire avec un grand I. Alors pour étudier l'histoire de la guillotine avec nous aujourd'hui, l'habituelle équipe d'experts historiens, bonjour Alexandre Bellin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Et bonjour Benoît Laverve.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors pour commencer l'émission, messieurs, peut-on prendre quelques instants pour décrire à quoi ressemble une guillotine ? Parce qu'on est au final assez peu à en avoir vu de nos propres yeux.
Et oui, un instrument terrible, C'est, alors il faut, pour se représenter une guillotine, il faut s'imaginer une lame qui est penchée, qui est diagonale, qui est érigée, montée à environ 3 mètres de haut, et avec un système de poulies, et qu'on relâche ensuite pour faire tomber, on fait tomber le couperet, et en bas de la guillotine, un orifice pour faire passer une tête ou autre chose.
Une nuque.
Et voilà, la lame s'abat lorsqu'on la relâche sur la nuque du malheureux.
Donc un vrai instrument conçu pour tuer les gens, tout simplement.
Conçu pour tuer les gens et les tuer vite.
Et les tuer vite,
dans l'idéal.
La guillotine, on la connaît parce que c'est quelque chose de terrible. Hein. Il y a une fascination morbide autour de la guillotine, c'est un instrument de mort. Mais Joseph Guillotin ne l'a pas toujours vu ainsi. Donc Joseph Guillotin, inventeur de la guillotine, la met au point en 1781. Et à la demande de Louis XIV, qui se demande comment mettre à mort des prisonniers et des condamnés efficacement. C'est son but premier, mais Joseph Guillotin y voit une alternative. Joseph Guillotin se rend compte de son objet et se dit, en fait, pourquoi forcément donner la mort avec cet objet ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour d'autres choses ? Et donc, Joseph Guillotin commence, dès la livraison de la première guillotine, à en mettre au point des guillotines plus petites, de tailles différentes, pour essayer de couper différentes choses et trouver l'usage qui, selon lui, serait le vrai usage de son invention.
Et c'est l'ancêtre de la trancheuse à jambon, qui permet aux charcutiers de venir trancher leur pièce de bœuf et leur ou de toute autre viande. Ça a beaucoup été utilisé dans l'agroalimentaire.
Tout à fait. Les boulangeries aussi, énormément.
Les boulangeries pour le...
Quand vous voulez une boule coupée ?
Une boule coupée, oui, c'est ça, parce que Joseph Guillotin, il y avait la guillotine qu'on connaît, l'objet de mort, ne possède qu'une lame, mais Joseph Guillotin en a fait des petits modèles avec plusieurs lames qui permettaient de couper efficacement une boule coupée et d'avoir son pain de près assez rapidement.
Ouais. Une boule coupée, mais aussi des inventeurs qui voyaient aussi un attrait aussi, non pas pour un régime de viandard, que j'ai envie d'appeler comme ça, mais genre pas forcément qualifié autour de la viande, mais aussi autour des légumes. Je pense par exemple à la mandoline qui a été inventée après en cuisine, voilà, qui s'inspire vraiment, et c'est là où il y a eu un peu débat à l'époque aussi, hein, sur de la poule ou de l'œuf. En tout cas, la mandoline, à mes yeux, est arrivée suite à la guillotine et aux travaux justement de Joseph Guillotin.
Et Joseph Guillotin, lui, il croit vraiment en son invention, mais pas. C'était un vrai optimiste et il voulait pas qu'on se souvienne de lui. Alors c'est raté, hein, mais il voulait pas qu'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui a donné la mort et qui a aidé à donner la mort. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme un humaniste. Et donc il a testé plein de choses et il n'était pas un très bon communicant. Parce qu'il a mis au point des petites guillotines pour couper des aliments chez soi. Et il avait fait une affiche de poster aujourd'hui désastreuse, connue comme la pire campagne marketing du monde, qui était une guillotine pour tous. C'était guillotine pour tous, il écrivait ça sur des posters. Et bon, effectivement, dans un contexte où la guillotine était surtout connue pour mettre à mort des gens,
et ces affiches qui ont été reprises pendant la Révolution française, une guillotine pour tous, le slogan détourné, avec pour guillotiner la noblesse.
Pour guillotiner la noblesse. Alors que lui, à la base, c'était juste pour couper des aliments chez soi, quoi. Il voulait vendre son invention.
Oui, et d'ailleurs les crieurs de journaux aussi qui avaient eu vent du coup du grand titre à donner aux passants et aux passantes, c'était pour votre cuisine des guillotines à en perdre la tête. Donc vous voyez bien aussi le problème.
Non, voilà, donc pas un très bon communicant, Joseph Guillotin. Mais quelqu'un avec un bon cœur et qui cherchait à faire la bonne chose.
D'ailleurs, il a failli se faire tuer à la Révolution française. On pense à ce moment où on est en train d'exister. Enfin, c'est la fin de la Révolution. La noblesse est en train de on guillotine. Les proches du roi et la noblesse, et Monsieur Guillotin, Joseph, monte sur scène, monte sur l'estrade où on était en train de guillotiner les gens et dit « Arrêtez, s'il vous plaît, c'est pas très sympathique. »
Un peu de respect pour mon invention.
Un peu de respect pour mon invention. Il a failli se faire guillotiner.
Oui.
Il ne doit son
sauvetage.
Son sauvetage qu'à Robespierre, qui est en fait un de ses amis à l'époque.
Amis, oui. Robespierre est très proche de Joseph Guillotin. Alors c'est lui qui à la base l'a mis en, donc Robespierre qui avait des contacts avec le roi l'a mis en relation avec le roi parce que le roi cherchait un inventeur pour un projet précis. Robespierre s'est dit attendez moi je connais Joseph Guillotin il va t'inventer un truc et voilà et Robespierre mais la vie de Robespierre et celle de Joseph Guillotin sont mêlées.
Et ils étaient très proches Robespierre étant absolument fan des ustensiles, avait d'ailleurs tous les ustensiles de cuisine, en tout cas tous les dérivés de la guillotine chez lui. Il était absolument fan des créations de son ami Joseph, donc. Et c'est là aussi où il y a eu quiproquo dans l'histoire, c'est-à-dire que Robespierre, grand fan de la guillotine, qui était aussi un fin cuisinier, qui était qualifié comme une terreur en cuisine. Oui. Et donc c'est là aussi où tout l'amalgame s'est fait sur le régime de la terreur.
Mais d'ailleurs, il faisait une ratatouille à en perdre la tête.
Voilà, oui. Donc vous voyez bien le régime qui a pris aussi après le terme de « Oh là, c'est toute une période diabolique », mais en fait, il était qualifié de terreur et c'était son régime à lui culinaire. Bref, ça a fait l'amalgame.
Alors, justement, Robespierre d'un côté, Joseph Guillotin de l'autre, qu'est-ce qui amène ces deux personnages à se croiser dans leur chemin de vie ?
Contrairement à Joseph, Robespierre est un très très bon communicant. Pour redorer l'image de la guillotine, bien que lui aime les deux utilisations de l'objet, mais son grand ami Joseph, lui, aimerait mieux qu'on arrête de tuer des gens avec la guillotine, Robespierre et Joseph Guillotin montent un restaurant tous les deux, en plein Paris. Un restaurant qui ne tarde pas à avoir une très bonne réputation, qui s'appelle...
Il s'appelle La Fourche aux Saveurs.
Il faut savoir que Robespierre et Joseph Guillotin se sont tous les deux rencontrés dans un restaurant, en fait. Robespierre est amoureux de la cuisine, était avant cuisinier. Joseph Guillotin, fine bouche, lui venait manger dans son restaurant. Et donc c'est là que l'amitié des deux hommes se sont créées. Et ils en reviennent à ça, et ils décident de fonder ensemble un restaurant La Fourche aux Saveurs en 1788.
Il y a un des premiers restaurants du quartier des Halles à Paris d'ailleurs, vraiment avec cette renommée-là.
Et donc ils utilisent la guillotine en cuisine et ils en font un peu leur marque de fabrique. Et c'est un peu la vitrine des produits. Ça, c'est une idée géniale de Robespierre, parce que on montre l'objet dans un contexte qui lui est beaucoup plus favorable. Et puis les gens peuvent goûter les plats fabriqués avec.
Notamment aussi le fait que quand on rentrait dans le restaurant, la devanture, la porte, était en fait une guillotine. On devait passer sous la guillotine pour rentrer. Évidemment, une guillotine qui ne pouvait pas s'abaisser. Mais il fallait quand même... il y avait une espèce de quelque chose de marketing de il faut avoir le cœur bien accroché pour rentrer dans le restaurant.
Mais il y a aussi un symbole de regarder, passer sous la guillotine, c'est pas dangereux,
et c'est aussi un pas à faire, un courage à faire aussi pour venir justement s'aventurer dans ce monde culinaire nouveau qui s'ouvrait à Paris de l'époque, qui était comme un renouveau, comme un passage dans l'au-delà, en fait, dans le paradis culinaire.
Malheureusement, ils diront dans l'au-delà, mais pas de la manière qu'ils escomptaient.
Très bien, alors les débuts de la guillotine dans les cuisines de Paris, on revient juste après la pause musicale. Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I après quelques minutes musicales avec un de mes groupes préférés, Idols, et leur morceau I Dream Guillotine. Alors, on s'est quitté en posant comme ça ce début d'histoire entre Robespierre et Joseph Guillotin qui démarre leur aventure amicale, mais même plus, parce qu'ils créent une entreprise à deux en créant ce restaurant à Paris. Voilà, est-ce qu'on peut continuer là-dessus? Est-ce que ce restaurant, est-ce qu'il avait du succès?
C'est un restaurant qui a énormément de succès.
Bien sûr.
C'est la place forte. Il faut manger là-bas. Tellement forte que... et puis la force de ce restaurant, c'est que tout le monde y mange, en fait.
Oui, tout le monde disait, on va à la fourche.
On se fait une petite fourche ce midi.
On se fait une petite fourche ce midi.
Ouais. C'était vraiment l'expression qui habitait le tout Paris. Donc, noblesse, clergé, tiers état. Et surtout les nobles, hein, la cour du roi, le roi lui-même est allé manger plusieurs fois. Et on pense que ça a aidé... à la Révolution française par la suite, parce que les gens, et la noblesse en tout cas, ne se méfiaient plus de la guillotine, en fait. Ils passaient sous la porte tous les midis pour aller goûter les plats de Robes, comme ils l'appelaient, et voilà, ils avaient bien conçu dans leur esprit que la guillotine n'était pas un instrument de mort, mais qu'était bien un instrument de cuisine.
Et le jour où le couperet leur tombe dessus, ils ne voient vraiment pas venir la mort qui les attend.
Ah non, ils voient ça comme une invitation à la fourche, d'ailleurs. Hein, comme, ah oui. Voilà, comme si c'était un passage, voilà, un instant de détente, voilà, comme si on allait leur apporter un repas en plein air, passer par la... C'est tout le symbole de passer par la porte de la fourche, d'où l'expression passer par la porte de la fourche quand on rentre dans un bon restaurant.
Oui, ils se sont juste dit encore un super coup de marketing de Robespierre.
Alors, justement, pour capter un peu l'ambiance, on va passer un extrait de film. Il y en a eu beaucoup sur ce lieu très, très, très fameux de l'époque, et on se retrouve juste après.
Robes ! Robes ! J'ai une bouillabaisse pour la 8, et le roi veut son plat favori.
Eh bien, bien sûr, pas de souci, je m'en charge sur le champ, je vais lui faire ses petits rognons comme il les aime, tranchés finement.
Excusez-moi, est-ce que je peux rentrer en cuisine? J'aimerais bien rencontrer Robes.
Oh bah, bien sûr, monsieur, vous rigolez ou quoi? Eh bien, suivez-moi.
Ah, merci.
Robes, il y a quelqu'un pour toi.
Ah, vous êtes Robespierre?
Oui, enchanté, je suis Robespierre.
Vous ne vous agenouillez pas?
Excusez-moi, c'est que vous voyez, je suis en train de cuisiner, je suis en train de battre les œufs.
Robes, c'est le roi.
Excusez-moi, messieurs,
Un peu de tenue devant le roi, s'il vous plaît, monsieur Robespierre.
Excusez-moi, j'étais justement en train de m'occuper de votre plat, je ne voulais pas vous manquer de respect en vous servant quelque chose de mauvais, mais bien sûr, je m'agenouille sur le champ.
Écoutez, il n'y a pas de souci, je suis un grand fan. Votre cuisine me régale. C'est un plaisir de venir à la fourche.
Vous m'envoyez ravi.
Je m'appelle Joseph Guillotin, monsieur, c'est moi qui ai inventé la... Vous vous souvenez sûrement pas de moi, mais c'est moi qui ai inventé la guillotine que vous avez demandé.
Ah oui, très bien.
Ici, on s'en sert en cuisine. Regardez les miracles que fait Robes.
Sans lui, vous ne pourriez pas manger aussi bien aujourd'hui.
Eh bien, j'en suis ravi. Merci à vous deux. Vous savez, la noblesse vous doit beaucoup.
Et
on est ravis de lui rendre.
Oui, nous essayons de lui rendre.
Ouais. Bah, écoutez, monsieur le roi, si vous voulez bien retourner je vous raccompagne à votre table, et puis Robes va se dépêcher pour votre plat.
Je m'en charge tout de suite.
Ouais, on se dépêche pour la viande du roi.
Merci bien.
C'est tout à fait naturel.
Joseph, c'est incroyable. Ton restaurant est en train de percer. C'est fabuleux, merci pour ta création.
Voilà, donc là, on voit un extrait de la première rencontre qu'on a sur papier entre le roi, Robespierre, et Joseph Guillotin. C'est quand même plein d'ironie quand on sait comment est-ce que l'histoire a terminé ensuite.
Mais il est formidable, c'est un super dessin animé, ça.
Oui.
Qui parle de l'histoire du restaurant
C'est marrant parce que ça reste un dessin animé, donc c'est pour les enfants. On parle vraiment complètement du restaurant et pas du tout de la Révolution française. Voilà, juste après. Pourtant, quand même, on sent une petite tension entre le roi et Robespierre à ce moment-là. Elle est palpable.
Ouais, c'est un clin d'œil du réalisateur.
C'est tout de même.
Mais je trouve, c'est là où le dessin animé est quand même assez fidèle à ce qui s'est passé. On sent qu'il y a eu des recherches préalables, parce que j'aime beaucoup effectivement la retranscription du culot de Robespierre lors de « Je ne m'agenouillerai pas, je suis en train de faire vos œufs, je m'occupe d'abord de ça et ensuite de vous. » On sent un petit peu justement tout le culot qu'il met en place à ce moment-là, et c'est très bien joué.
Oui, quand on sait qu'il a été une figure de proue de la Révolution et des coupeurs de tête.
Mais pour ce film, d'ailleurs, a été nominé en même temps que Ratatouille aux Oscars. Et il n'a pas eu, c'est le Ratatouille qu'il a eu.
Je crois pourquoi ils ont sorti en même temps Ratatouille
et La Fourche aux Délices.
La Fourche aux Délices. La Fourche aux Saveurs.
Ah oui, mais le film s'appelle La Fourche aux Délices pour pas...
Ah oui, ils n'avaient pas les droits.
Non, ils n'avaient pas les droits, pardon.
Mais à mon avis, voilà, c'est un petit peu aussi tout le côté. Voilà, nous, on s'était un petit peu centré autour de la France. On dit que Ratatouille, vous, voilà, on ne va pas parler de Disney, mais voilà, qui s'ouvre un peu plus à l'international. Oui. Enfin, voilà.
Bref. Très bien. Donc, on a ce lieu en plein Paris qui devient de plus en plus couru. Si même le roi vient y manger. Comment se passe la suite? Qu'est-ce qui se passe avec la guillotine? Est-ce que ce restaurant, comme ça, continue à avoir autant de succès?
Le restaurant prospère, des enseignes ouvrent un peu partout en France. On a toujours, hein, évidemment, hein, je dis ça, mais il y a des fourches aux saveurs un peu partout en France maintenant. Hein.
Bah, c'est une chaîne de bien de chez nous. Quoi, qui...
Oui, alors malheureusement, on a laissé tomber la guillotine, si je peux me permettre encore une fois. On a abandonné tout ce qui était autour de la guillotine et du symbole de la guillotine. Évidemment, on ne passe plus sous la guillotine pour rentrer dans les fourches aux serveurs. Parce que la guillotine, justement, à la mort de Robespierre, on n'a plus le directeur marketing et toute l'intelligence de Robespierre autour de l'objet. Et la guillotine redevient un objet de mort et de terreur.
Vous parlez de la mort de Robespierre.
Ah, oui. On va y venir. Mais donc en fait, après le restaurant prospère, il y a la Révolution française qui est en partie aidée par le fait que les nobles n'ont plus peur de la guillotine. Et une fois que voilà que le calme se réinstalle, Robespierre et Joseph Guillotin. Bon, alors Joseph Guillotin tirait un peu la tête. Enfin, c'était une époque difficile pour lui parce que autant de morts
par son invention,
pas sur sa conscience, mais lui, il le vit très très mal que son invention tue autant de gens, alors que lui, il voit ça vraiment comme le pinacle de la cuisine française.
Et en plus, Joseph Guillotin est vu par une bonne partie de la population comme un royaliste, puisqu'il ne voulait pas que la guillotine tombe sur la noblesse. Et même si Robespierre l'a sauvé, beaucoup de Français catégorise Joseph Guillotin comme un royaliste qui n'aime pas aimer la Révolution.
Il a fait une grande dépression suite à la Révolution française, Joseph Guillotin. C'était un moment très difficile pour lui. Mais néanmoins, il recontinue à travailler dans son restaurant avec Robespierre. Et voilà, pendant quelques années, les deux continuent à faire affaire. Alors le restaurant est un petit peu moins populaire, mais continue à avoir sa traction. Et bon, voilà, il y a eu des événements tragiques, notamment la mort de Robespierre, et puis la mort de Joseph Guillotin a suivi très peu de temps après, mais qui ont été un moment tragique dans l'histoire de la fourche aux saveurs.
Très bien. Alors, ce que je propose, c'est qu'on aille droit dans le sujet, comme on arrive à la fin de l'émission, et qu'on explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est un événement assez particulier. Comment est-ce que les deux protagonistes de notre affaire décèdent?
Aïe, aïe, aïe. Oui, on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure justement le tournant de par la mort de Robespierre, de par la révolution qui s'était mise en marche, l'utilisation toujours plus excessive des guillotines qui rendait complètement triste notre pauvre guillotin. La mort de Robespierre, la mort qui a lieu sur son lieu de travail, qui a lieu à l'entrée même.
Accident de travail.
Bête.
Et on est le samedi...
13 décembre
1792. J'ai du mal avec les chiffres,
1792.
Robespierre est encore une fois, comme tous les matins, il était matinal. Il est le premier à aller au restaurant le matin pour accueillir les livreurs de poissons, de légumes, pour récupérer, pour commencer à cuisiner pour le service du midi. Et il ouvre la porte avec la clé et il passe sous la guillotine.
Alors, il passe sous la guillotine.
Jusqu'ici, vous dites c'est anodin.
Mais... Jusqu'ici, c'est anodin. Mais au moment où il claque la porte un petit peu trop fort et la guillotine, le couperet de la guillotine qui était la porte, tombe et vient lui sectionner la main. La main uniquement. Il réchappe à la mort une première fois. Et déjà, c'est pas anodin parce que ça aurait pu être un symbole qui aurait dû lui faire prendre conscience qu'il n'aurait peut-être pas dû se lever aujourd'hui et il aurait peut-être dû prendre un jour de congé. Il a la main coupée. S'ensuit alors une panique. Lui qui est cuisinier, il a besoin de ses deux mains pour cuisiner. Il court dans les cuisines et il glisse sur un sol impeccable qu'il a lustré lui-même la veille. Encore un petit peu savonneux du passage de la serpillière.
Et oui.
Et il tombe dans une guillotine la tête droite dans une guillotine dédiée à la coupe du gigot.
Non mais vous voyez, mais c'est un karma horrible qui lui tombe dessus.
C'est vraiment tragique.
C'était pas sa journée.
Ah non. Et ce qui est tragique encore plus, c'est Joseph Guillotin, ce pauvre homme en dépression suite à la Révolution française, et dont le seul rayon de soleil est son ami Robespierre et son travail à la fourche aux saveurs, qui arrive à 10h. Et pour trouver la main de son ami, le sol ensanglanté. Et,
sur la poignée.
Sur la poignée. Et le corps de son ami dans les cuisines, décédé par son invention à lui. Et son invention, ouais. Vraiment tragique. Et donc, bah voilà. Joseph Guillotin part immédiatement vivre en Corse. Et on le comprend. Et il finira ses jours seul dans une cabane.
En Suisse, notamment.
En Corse,
il va en Corse au début de sa convalescence, puis il finit en Suisse, chez sa mère, où toute la symbolique de son esprit torturé ressort dans son chant du cygne, dans sa création finale, le couteau suisse.
Le couteau suisse et l'ouvrage qui va avec, Mon dernier couteau.
Oui.
Un roman torturé de 800 pages. Dans lequel il raconte. C'est un roman, mais c'est une autofiction, où il parle de quelqu'un qui s'appelle Josefino, un Italien qui invente un couteau. Enfin bref, c'est un roman complètement illisible, torturé.
Très triste.
D'une tristesse.
Mais en tout cas, sa reconversion finale, même, il devient le docteur, hein, Guillotin. Il se penche sur de multiples sujets, dont l'invention du couteau suisse, mais aussi dans des recherches un peu plus poussées dans la médecine, à savoir à la fin c'est à lui qu'on doit l'invention, donc ce qui deviendra le Doliprane. Donc, voilà pour les
mal de tête.
Ça aussi, voilà. C'est une sacrée ironie.
Donc ouais. Voilà, pour toujours avec ce drame passif de son ami Robespierre.
Très bien, alors une histoire assez sombre, enfin qui termine mal pour ces deux protagonistes. Il nous reste 2 minutes, on va dire, 2-3 minutes pour faire un tour d'horizon des œuvres artistiques à recommander à nos auditeurs et à nos auditrices. Ça peut être n'importe quoi, des tableaux, des livres, on prend tout. Qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut lire quand on pense à la guillotine?
Alors moi, je vous invite, si vous passez un tableau très très connu, hein, mais si vous passez au Louvre, n'hésitez pas à vous arrêter devant le Rembrandt, les cuisines de la fourche aux saveurs, le peintre Rembrandt qui était un fervent admirateur, comme le tout Paris, hein, mais qui aimait beaucoup manger à la fourche aux saveurs, et qui a peint les cuisines de la fourche aux saveurs, et donc on y voit les nombreuses guillotines qui servent à couper les nombreux aliments, et donc voilà, ça donne quand on connaît l'histoire, ça donne une nouvelle saveur à ce tableau.
Oui, effectivement, et pour l'aspect plus musical, si je me permets, plus tard, c'est une œuvre un petit peu moins connue de Maurice Ravel, mais c'est une musique qui s'appelle « Le pleur des oignons », et en fait qui retrace toute cette scène finale de la mort de Robespierre, où en fait tous les instruments sont composés d'outils de cuisine, et qui retrace en fait son entrée avec la guillotine qui chute sur le carrelage, puis cette chute de la main, puis ce cri jusqu'à finir dans cette guillotine, et ce son caractéristique que je ne vais pas vous raconter ici, mais que je vous laisse aller écouter, qui est très très émouvant.
Ah, vous attirez ma curiosité là. Vous attisez ma curiosité.
Ah, l'entrée des marmites dans cette composition est superbe.
Voilà, donc si vous voulez aller chercher ça, le cri des oignons de Maurice Ravel.
Le cri ou le pleur?
Ah pardon, excusez-moi. Oui, alors c'est un mouvement dans cette symphonie globale. C'est donc l'œuvre globale, c'est le pleur des oignons, et donc à la fin, le mouvement final, c'est le cri des oignons. Okay. Voilà, ça porte à confusion.
D'accord.
Le pleur des oignons, ce sera l'œuvre à regarder, à écouter pour capter l'histoire de la guillotine avec ses débuts très sombres. Merci à notre équipe d'historiens, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à la guillotine. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine, nous étudierons un nouveau fait historique.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.